Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1 si vous nous rejoignez. On consacre une heure d'émission désormais à un chouchou de SLC. Il y a 50 ans, Clo-Clo faisait les grandes heures d'Europe 1, participant aux émissions phares de l'antenne. Un style, une voix, une énergie, des couleurs évidemment. Comment s'est-il imposé en chanson et que reste-t-il de lui, lui qui aurait 80 ans cette semaine? Eh bien, vous n'hésitez pas à réagir avec nous à cette actualité. Que gardez-vous en vous de Clo-Clo? Je vous donne la parole et on écoute ses plus grands titres sur Europe 1. La parole, c'est au standard d'Europe 1.
Au 39-21, on vous attend.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et parc sur le Nil. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra. Alexandrie. Alexandrie, où tout commence et tout finit.
Claude François, né en Égypte le 1er février 1939, 16 ans d'une carrière exceptionnelle en France qui ont fait l'artiste au talent durable dont on parle ce matin sur Europe 1. Bonjour Fabien Lecoeuvre.
Bonjour Wendy.
Vous qui avez publié une dizaine d'ouvrages sur Claude François, vraiment passion de jeunesse, d'enfance et qui n'a cessé de vous suivre, Fabien.
Comme des millions de Français, je pense.
Oui.
Et puis, une rencontre avec Claude et Marc François.
Les enfants.
Au début des années 90, absolument. Et qui fait qu'ils m'ont confié cette mission de gérer de manière posthume, en tout cas, la carrière de leur papa.
Oui.
Et puis, je me suis intéressé davantage au sujet, évidemment.
Et j'ai
commencé
à
devenir spécialiste en anecdotes. Oui.
Sarah Cruz, Charlotte Arrigoni étaient en transe, en régie, parce que ça marche toujours, cette chorégraphie, cette chanson, qui sont l'une des grandes marques de fabrique de l'artiste. Sa dernière chanson, de surcroît, qui va sortir chez les disquaires le jour de ses obsèques.
Oui, c'est invraisemblable d'ailleurs, parce qu'il ne pensait pas, en l'enregistrant entre septembre et octobre 77, il ne pensait pas que ça allait être son dernier succès, puisqu'il avait sorti avant Magnolia Forever. Mm-hmm. On va dire au mois de novembre 1977. Le succès était tel, il en vendra plus de 800 000 exemplaires de Magnolia. Et immédiatement, on cherche un deuxième extrait au dernier album de Clo-Clo. Et on prend Alexandra Alexandra. Lui-même avait signé d'ailleurs les bons à tirer de la pochette pour que ça parte en usine de fabrication de disques.
Oui.
Trois jours avant de disparaître. Et le disque, fatalité du calendrier finalement, sortira le mercredi 15 mars 1978. Jour des obsèques du chanteur.
Incroyable, hein, puisque Emmanuel Macron est en Égypte en ce moment pour négocier des contrats, pour parler droits de l'homme et de culture. Mm-hmm. On peut parler quelques instants de l'empreinte égyptienne de Clo-Clo, né à Ismaïlia, dans une famille aisée, dans une villa de la compagnie du canal de Suez, où il apprendra beaucoup de choses, notamment le métissage aussi.
Oui, hein. C'est exactement ça. On est en pleine période coloniale, comme il faut l'expliquer, puisque c'est le grand-père de Claude François, Adolphe François, qui s'était installé au départ en Égypte. Son père, Aimé François, dirigeait, contrôlait en tout cas la navigation du canal de Suez, l'entrée et la sortie des bateaux au canal, qui a été une révolution, ce canal de Suez, qui a été creusé, créé par Ferdinand de Lesseps, comme chacun le sait, et qui a engagé des milliers de personnes, on va dire, français, anglais, italiens, etc. Donc il y avait toute une communauté qui travaillait pour ce canal de Suez, et Clo-Clo a grandi dans cette famille un peu bourgeoise. Ils étaient en communauté entre les Anglais, les Français, les Italiens, et tout le monde s'entendait. Et puis ça fonctionnait très bien jusqu'au jour durant l'été 1956 où le colonel Nasser en Égypte décide de coloniser, en tout cas de nationaliser le canal de Suez. Et là, à partir de là, les Anglais sont expulsés en 54, les Français en 56. Et puis ça devient la misère. Mais c'est vrai que ça a été une influence très importante. Et vous le rappelez très justement, ces influences orientales ont considérablement éduqué, on va dire, Claude François dans sa jeunesse,
oui,
pour son rythme.
Jusqu'à ce titre-là, écoutez.
El Naboot, El Naboot, c'est la danse que vous appelez le twist. El Naboot, El Naboot, il y
a bien longtemps que cela existe.
C'est pas le titre le plus connu Claude François, mais je l'aime bien parce qu'il mêle les influences.
C'est le premier.
Il est sorti en mars 62, mais sous le nom de Claude François, sous le nom de Coco.
Coco.
Et puis et puis ça n'a pas du tout fonctionné puisque c'était au moment en mars 62 où on signait la fin de la guerre d'Algérie, donc c'était compliqué. Le rythme, le twist, oui, mais alors l'influence orientale, c'était pas du tout au goût des Français à ce moment-là.
Ah bah il se cherchait en effet, mais donc, il faut dire qu'il fait ses armes depuis peu de temps en tant que musicien, chanteur aussi.
Il en a vendu 700 quand même.
Donc aujourd'hui,
alors aujourd'hui on en retrouve beaucoup en Afrique du Nord et à peu près il faut compter en termes de collection, ça vaut entre aujourd'hui un disque du Coco original, ça vaut entre 700 et 1200 euros à peu près. Ils sont quand même rares pour les collectionneurs, ceux qui achètent absolument tout sur Claude François.
Il arrive à Paris en 1956, c'est l'année du succès d'une autre artiste arrivée d'Égypte 2 ans auparavant, Miss Égypte alias Dalida.
Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux.
Alors comment Claude François va devenir Clo-Clo? Quelles rencontres, quel sens artistique lui permettront de s'imposer? Eh bien on en parle avec vous Fabien Lecoeuvre, l'artiste aurait eu 80 ans cette semaine, et avec Christian Maurice qui va venir nous parler des débuts de Claude François. Il a été son secrétaire personnel pendant 5 ans, de 1964 à 1969. Il publie Claude François intime aux éditions de l'Archipel. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Elle est dans mon sommeil comme une fleur. Un soleil sans soleil et sans chaleur. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a des
Claude François à l'honneur sur Europe 1. Que reste-t-il du mythe, lui qui aurait eu 80 ans aujourd'hui? Fabien Lecoeuvre est là pour nous en parler, l'un de ses plus connaisseurs, biographes. 80 ans, Clo-Clo, on a du mal à l'imaginer d'ailleurs, vieux chanteur entre guillemets.
Mais je crois que lui aussi aurait eu du mal à s'imaginer à 80 ans. Je crois qu'on lui avait posé la question quelques semaines avant de disparaître. Il lui avait dit: qu'est-ce que vous allez faire à votre prochain anniversaire, le jour de vos 40 ans.
Il est mort à 39 ans.
Et oui, il est mort à 39 ans, 39 jours après son 39e anniversaire. Étant né lui-même en 1939. C'est un chiffre important dans sa carrière, finalement.
Et les signes du destin ou les hasards, il y croyait quand même.
Oui, aussi. Et puis, alors, il avait répondu: il a dit, ce jour-là, je vais m'enfermer, je vais rester chez moi seul dans ma propriété du Moulin de Dannemois. Et je vais m'isoler comme les chiens s'isolent à un moment donné quand ils sont malheureux. Et c'est très marrant parce que pour lui, il vivait ça très mal. Et finalement, j'en parle des fois avec Jean-Pierre Bourterre, que je ne présente plus, qui est l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle, qui a écrit tant de chefs-d'œuvre pour Clo-Clo, composé en tout cas. Et finalement, on se dit, avec un recul, bien sûr que c'est un malheur de partir à l'âge de 39 ans. C'est un malheur pour soi-même, pour les enfants, pour ceux qui restent, finalement. Mais s'il avait dû choisir une sortie, je pense qu'il aurait choisi celle-là. Disparaître en pleine jeunesse, au zénith du succès, parce qu'en même temps, ça collait avec sa carrière. Sa carrière était faite de refrains, de gimmicks, de tourbillons, de chalala, de wabdouap. Tout ça, c'est lié au jeunisme absolu. Et à un moment donné, même lui, je pense, s'imaginait même pas avoir un jour 70, 80 et plus. Et il était tellement lié à ça que je pense qu'il aurait adoré, vraiment, sincèrement, et je pars au 8e degré, hein, bien sûr. Hein.
Oui.
Je pense qu'il aurait adoré cette sortie.
Cette sortie,
là. Ouais, vraiment.
Julie, commentaire sur Twitter.
Oui, un témoignage de Sylvie sur Twitter. Claude François s'aimait 7-8 ans avec ma grande sœur de cœur, chez notre Tati, sur la terrasse, en train de chanter et danser le lundi au soleil, et aussi suivre toutes les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier. Plus tard, deux folles soirées sur Alexandrie, Alexandra.
Le lundi au soleil. Voilà. Votre préféré.
Chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil.
Bonjour Christian Maurice.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Et bonjour à Fabien.
Et oui, vous vous connaissez, hein, l'un et l'autre.
Oui.
Vous qui publiez Claude François intime ces jours-ci, vous qui avez été secrétaire personnel de Claude François pendant 5 ans, de 1964 à 1969, vous avez vu l'artiste devenir le grand talent qu'il est devenu, Christian, finalement.
Oui, mais j'ai jamais été réellement son secrétaire. Claude François, pour moi, c'était plutôt mon grand frère.
Oui.
Mes contacts avec lui, c'était totalement différent. Je l'envoyais promener. D'abord, je ne l'ai jamais, comme beaucoup de personnes, considéré comme une idole, une chose comme ça. C'était, je voyais comme un Claude tout court. Donc, mes relations étaient totalement différentes. Je n'ai jamais été sous l'hypnose de ce qu'il était.
Et vous l'écrivez, ce qu'il était. Une fois les projecteurs éteints, Claude François était rongé par la solitude et jamais il n'a pu renouer avec l'anonymat, redevenir Claude tout court. Même si vous souhaitiez qu'il redevienne Claude lorsque vous vous parliez, Christian Maurice, il y avait ce rapport à la notoriété qui était très particulier chez lui. Hein.
Oui, mais pour rien au monde, j'aurais changé ma place contre la sienne. Les gens s'imaginent pas, mais arrivé à ce stade... l'idole qui maintenant ce titre est usurpé, ça demande des sacrifices énormes. Et une astreinte, sa vie était consacrée à son public, tout était fait en fonction de son public. Il vivait pas, c'est une personne qui avait Fabien disait son âge, mais dans sa tête, il avait 50 ans. Souvent je me disais mais c'est pas possible, comment il peut vivre comme ça, pas profiter de ses succès. À peine un succès, dans la nuit, on roulait, on entendait à la radio Claude François en quatrième semaine, numéro 1. Jamais je l'ai vu commenter, je l'ai entendu commenter, se réjouir. Il était déjà dans l'angoisse du futur disque qu'il allait produire.
Oui, ça c'est très juste, Fabien Lecoeuf, l'angoisse justement de la création permanente, innovée, marquée, son temps.
En même temps, c'est vrai que tous les artistes, et Christian Maurice l'explique très bien, tous les artistes sont habités par le doute et l'angoisse du lendemain, parce que c'est un métier qui est basé, c'est un château de sable, le succès, finalement. Donc c'est quand même c'est fragile, on le sait. Il suffit qu'une autre idole arrive pour balayer tout ce qu'il y avait avant.
Bien sûr.
Donc et ça, il avait conscience de ça, parce qu'il faut rappeler quand même, c'était un homme intelligent, Claude François, très intelligent, qui réfléchissait sur lui-même, pour les autres, et pour cette espèce d'univers qu'il avait créé autour de lui, autour de son personnage, avec ce fameux culte de la personnalité qu'il avait, avec son magazine, avec
podium,
tout ce qu'il y avait, autour.
Sa production, les flèches.
Et ouais. Je pense qu'il était très conscient en même temps de cette fragilité. Et ça c'est quand même, c'est ce qui habite quand même beaucoup, beaucoup d'artistes, si vous parlez avec eux.
Oui, fragilité, peur de l'éphémère, évidemment, d'où la nécessité de toujours être en avance sur son temps.
L'angoisse de ne plus plaire, tout simplement, au public. Oui. Un public peut se détourner d'un artiste. Oui. On en a connu plein des carrières comme ça.
Ah, physiquement et artistiquement.
C'est comme ça, c'est le lot de chacun, on sait.
Christian Maurice, on entendait le Naboo Twist. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quelques semaines après cette chanson particulière, on va la qualifier comme ça, on est en pleine époque yéyé et il va se lancer dans une reprise de Girls, 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 Met to Love, c'est-à-dire Belle, 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 adaptation de Vlyn Bugge, grand auteur, elle a 90 ans aujourd'hui, c'est une femme incroyable.
Ah, oui.
Elle a raconté chez nos confrères de Télématin sur France 2 l'an passé sa rencontre avec Clo-Clo, écoutez-la.
Un jour, on sonne à ma porte et j'ouvre et je tombe sur un jeune garçon très maigre qui n'était pas vraiment d'une grande beauté à l'époque. Claude François est venu me voir parce qu'on adaptait beaucoup de chansons qui venaient des États-Unis ou d'Angleterre à l'époque. Et je prends Mad to Love des Everly Brothers. Girls, 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 we make love. Il écoute, il dit « Ah bah oui, c'est formidable, je le veux, je le veux, je le veux. » Bon, moi j'avais écrit un texte déjà, bêtement, je dois dire, avec une masculine. C'est-à-dire rien, rien, rien que notre amour. Et là, Claude me dit « Ça ne sonne pas bien. Je voudrais qu'on écrive une féminine. » C'est-à-dire comme une cloche, comme belle en anglais. Et belle, 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 aimée. Belle, belle, belle comme
le zoo. Voilà, Vlyn Bugge qui raconte cette rencontre avec Claude François. Et vous arrivez 2 ans après ce succès. Le disque s'écoule à 1 700 000 exemplaires. Déjà parce que aussi Claude François met le pied dans la porte à Europe 1. Daniel Filipacchi lui impose quasiment de passer
disque. On peut dire que le succès de Belle, Belle, Belle est né rue François 1er dans les studios d'Europe 1, puisque c'est la première radio qui va diffuser le titre. Très ouais. honnêtement, bien ouais. sûr. Et c'est pour ça que Claude a toujours cette reconnaissance vis-à-vis d'Europe 1. En 1976, bien des années après Belle, 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 Europe 1 lui consacrera une journée entière sur l'antenne, c'est-à-dire de 6h le matin, il était réveillé à ce moment-là avec les auditeurs d'Europe 1,
oui.
jusqu'à minuit, il est resté à l'antenne. C'est hallucinant. Julie s'en souvient, puisqu'elle était déjà présente à ce moment-là.
Vous étiez ouais. là pour cette journée spéciale ?
Non, j'ai dû y passer.
Absolument, incroyable. Ouais. Ah, ouais. Il aimait beaucoup Julie, d'ailleurs, dans la voix, souvent.
Ouais.
Il aimait sa voix d'antenne, et etc. Et alors, il s'était confié pratiquement toute la journée sur Europe 1, pour raconter son personnage qui intriguait quand même tous les bobos, les intellos déjà parisiens. et il expliquait que son succès, voilà, il allait vers le facile, comme on pouvait le dire à l'époque, qui n'était pas si facile finalement.
Clo-Clo qui a connu avec Christian Maurice, qu'on reprend pardon, dans un instant en ligne, le luxe, les bolides, les palaces, les fans qui harcelaient la star. Vous avez navigué à ses côtés, assistant, secrétaire personnel, Christian Maurice, de 64 à 69. Et puis vous avez entendu Fabien Lecoeuvre, biographe du chanteur. Il aurait eu 80 ans, Clo-Clo. Ça fait bizarre d'en parler
février,
comme ça.
Le 1er février.
Exactement, cette semaine-là. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Forever. Une heure en compagnie de Claude François. Claude François qui aurait eu 80 ans cette semaine. Que reste-t-il du mythe ? Wendy Bouchard.
Nous le racontait Fabien Lecoeuvre, auteur d'une dizaine de biographies sur Claude François. Vous pouvez vous les procurer et vous rentrerez dans son intimité. Christian Maurice aussi publie ces jours-ci Claude François intime justement. Christian, vous qui vous êtes considéré comme le frère de Claude François de 1964 à 1969, en partageant sa vie de jour comme de nuit, et qui nous livrait dans cet ouvrage l'exigence de l'artiste au quotidien. Vous nous disiez tout à l'heure, Christian, qu'il avait du mal à se satisfaire de son succès et de vivre un bonheur, finalement, au moment où il se déroulait. L'exigence de l'artiste, vous l'avez vu, de vos yeux vus ?
Ben, écoutez, j'étais 18 heures sur 24 avec lui. Beaucoup de gens auraient, de fans auraient rêvé d'être quelques minutes. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir du temps libre. Donc ce que j'écris, c'est des choses que j'ai vécues avec lui qui sont très personnelles. Par exemple, on a toujours un petit peu survolé le personnage. Je vais vous donner un détail qui me, entre autres, parce que des choses comme ça, j'en ai vécu des centaines. Parfois, un jour, on avait fait un gala à Lyon. Donc il avait fait son tour de chant qui durait 2 heures. Il était quand même fatigué, 3 heures. Ensuite, il conduisait la Mustang en remontée au moulin.
Oui,
vous aviez l'autoroute. Vous aviez l'autoroute. Ensuite, on prenait le départ sur Matane. Et ensuite, on arrivait, c'était au petit matin. Il était peut-être 5h du matin. Il y avait un petit chemin de campagne qui faisait 5-6 kilomètres. Eh bien, à chaque fois, il me disait « prends le volant ». Et éclairé quand il est mis encore, et bien par les phares, il terminait jusqu'au moulin en footing.
Oh là là.
voilà, c'est ça qui n'a jamais été décrit de Claude François, parce que ça, je l'ai vécu constamment. J'ai vécu des choses que je partageais avec lui.
Mais c'était quoi ça, Christian Maurice ? C'était l'adrénaline, c'était la nécessité d'avoir un sas de décompression après tout ce qu'il avait vécu, après l'hystérie des fans aussi ?
Non, c'est qu'il voulait toujours être toujours être en forme,
en grande forme, quoi.
En forme, oui. Toujours. Voilà, c'était son obsession, ça a toujours été ça. Il y a eu une chose aussi, pendant un moment, on lui a collé l'étiquette, mais maintenant c'est différent, mais il y a 50 ans d'homosexuel. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on rentrait dans un hôtel, dans un restaurant à Quimper, en Bretagne ou ailleurs. Eh bien, dès qu'on rentrait dans une salle de restaurant, aussitôt les tables, les gens se retournent vers vous. Et puis, ah, clo-clo. Bon, alors, donc, vous mettez dans un endroit distrait. Et puis, ils ne voulaient pas entendre, ah, mais il n'est pas comme à la télévision, hein. Donc, on partait aux toilettes. Et puis, ils se mettaient du tan numéro 2, ils se mettaient un peu de maquillage pour paraître en forme, vous comprenez ?
Oui, toujours.
Alors, à cette époque, il suffisait que des personnes, des jeunes descendent aux toilettes, voyant deux jeunes, enfin oui, moi j'avais 17 ans.
Voyant Claude François se maquiller, se refaire une beauté aux toilettes, évidemment. Oui.
Qu'est-ce que c'est ces types, vous comprenez ? Mais... et il a eu... C'était incroyable. Avec lui, il y avait des choses qui étaient complètement folles.
Le sens de l'apparence, évidemment, Fabien Lecoeuf, lorsqu'on est une star, et qui plus est, lui, qui avait ses costumes toujours tirés à quatre épingles, c'était aussi un artiste en soi, un modèle.
Quoi. Oui, je crois que c'est vraiment la différence, en tout cas, entre les artistes d'hier et d'aujourd'hui, les stars d'hier et les stars d'aujourd'hui. Les stars d'aujourd'hui, aujourd'hui, se préparent pour... Ils prennent une panoplie de Patrick Bruel, de M. Pokora, de Soprano. À l'époque, ils étaient, à partir du moment où ils sortaient de leur chambre à coucher, de leur chambre d'hôtel, ils étaient déjà Claude François ou Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'ils arrivaient complètement impeccables, coiffés, maquillés. Ils étaient dans la vie. Quand on les croisait dans les rues de Paris, ils étaient comme à la télé. C'est-à-dire qu'ils avaient cette apparence absolument incroyable pour faire rêver des millions de personnes. Je me souviens avoir posé une question un jour à Claude François dans une voiture. J'étais jeune attaché de presse à l'époque. Et vous savez qu'en dehors des plateaux de télévision, en dehors de son bureau, en dehors de la scène, on ne voyait jamais ses yeux. Il avait toujours ses célèbres Ray-Ban sur le nez qui lui cachaient son regard, très souvent.
D'accord.
Et un jour, moi, naïvement débutant ma carrière d'attaché de presse, je lui dis « Mais pourquoi, Claude, vous avez
toujours ses lunettes,
même les jours de pluie ?»
Oui.
C'est une question un peu naïve, on va
dire. « Pour montrer tout ce que je veux cacher », disait Gainsbourg.
Oui, c'est un peu ça. Alors Gainsbourg disait ça et Claude disait « Tu dois savoir que le regard d'une star ne doit jamais croiser le regard d'un autre. » Ce qui en dit long et en même temps c'est très intelligent, c'est exactement ça, parce que c'est l'application que fait aujourd'hui une Farmer, que font d'autres stars, des Michael Jackson en leur temps, etc. C'est-à-dire que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais croiser. Quand on est une star, on doit absolument être isolé d'un système pour pouvoir faire rêver et donner du rêve à des millions de personnes. Et je pense qu'il avait très conscience de ce star system. J'ai jamais oublié cette phrase que m'avait donnée Claude François. Et finalement, tout le monde l'applique, cette recette, aujourd'hui, pour ceux qui sont encore des grands stars, aujourd'hui.
Oui, absolument.
Donc, je crois qu'il avait ce problème de l'apparence, son physique était très important. Très important. Il vendait des disques, c'était le petit prince charmant. C'était...
Mais l'histoire du marathon à 5h du matin sur la route de campagne, après la soirée et la nuit à conduire, c'est quelque chose.
Mais il avait une énergie débordante, attention, hein, c'est un garçon plein de force. Hein.
Je remercie Christian Maurice, Claude François Intime, qui vient de paraître aux éditions L'Archipel. On reste avec vous, Fabien Lecoeuvre. Et on raconte aussi l'histoire qui a lié, vous l'avez déjà bien dite, Fabien Lecoeuvre, Clo-Clo et notre radio.
Comment Claude François, arrivé d'Égypte à Paris en 1956, va devenir Clo-Clo ? Quelles rencontres, quel sens artistique lui permettront de s'imposer ? On revit son ascension exceptionnelle et sa carrière fulgurante en compagnie de Wendy Bouchard et de Fabien Lecoeuvre jusqu'à 11h.
Et de vos témoignages, comme Sylvie qui s'exprimait tout à l'heure sur Twitter, n'hésitez pas au 3921 à nous dire ce qui vous touche encore chez Claude François, dans ses chansons, dans son empreinte. Un artiste qui aurait eu 80 ans ce vendredi et qui disparaît le 11 mars 1978. Il avait 39 ans, c'était l'après-midi. Et c'est Pierre Lescure qu'il annonce sur Europe 1.
Ah, j'étais là, moi aussi, j'étais à l'antenne.
Vous étiez là.
Samedi après-midi. Ouais.
Voilà, premier flash à 17h. Et puis quelques minutes après, vous prenez encore le flambeau avec Christian Morin. Écoutez.
Voilà presque une heure que Pierre Lescure nous apprenait la mort de Claude François à la suite d'une électrocution dans son appartement parisien. Et habituellement, avec Julie, nous vous donnons rendez-vous tous les samedis pour un Hit Story. Un Hit Story qui sera en réalité aujourd'hui un hommage à Claude François, notre ami Claude François, ici à Europe 1, au travers de sa carrière musicale. Donc, Pierre Lescure, vous le disait dans le flash de 17h, il y a maintenant 10 minutes, 1962, c'est Claude François qui arrive en France. Enfin, arrive en France, il y était déjà, mais en tant que batteur, il arrive, il se tourne vers la chanson. Et on commence tout de suite avec Belle, Belle, Belle.
Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour.
Belle, 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 1962, quelle chanson qui va réunir finalement tout ce que Claude François va devenir et représenter. Les filles, évidemment, les filles en pagaille. Alors, on ne compte plus les chiffres énoncés pour ses conquêtes. Il a rencontré des filles et des très jeunes filles, Fabien Lecoeuvre.
Oui, alors ça, c'était le grand débat, notamment au moment du 40e anniversaire de sa disparition l'année dernière, avec une jeune fille qui justement, se disait la fille, se dit en tout cas la fille de Claude François, qui serait née 6 ou 8 mois avant sa disparition. Mm-hmm. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'il aimait les jeunes filles, il l'avouait lui-même. Il n'y avait pas de mots ni de sens pédophilie dans le système, oui. Si vous voulez. C'est-à-dire que le mot est un peu exagéré dans tout ça. C'est des filles qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans.
Il aimait
ans,
la fraîcheur adolescente.
Oui, mais comme tous les chanteurs de l'époque. Ouais. Vous savez, on ne va pas faire la liste. Mais enfin, je crois qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de mauvaises intentions, en tout cas, dans son personnage. Il aimait être entouré d'une certaine jeunesse. D'ailleurs, les filles qui achetaient ses disques en 1962, comme Belle, 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 c'était des filles de 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et puis après, beaucoup d'enfants, évidemment. Et à la fin de sa carrière, ce qui est très curieux, d'ailleurs, quand il chantait Magnolia ou Je vais à Rio, c'était les filles encore qui avaient 15, 16, 17, 18 ans. C'est-à-dire qu'il est un des rares artistes à avoir gardé toute sa carrière durant les filles d'un même âge. C'est ça qui est incroyable. Mais on peut dire aussi une phrase de Claude Lelouch que j'adore. En fait, les artistes, les stars comme ça, souvent ont le même âge toute leur vie. C'est ça, en fait, quelque part.
Claude Lelouch qui va réaliser le premier Scopitone, d'ailleurs, de Belle, 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 où on voit Claude François twisté dans la neige avec des jeunes femmes en tenue d'été, hein, dans la neige. Mais c'était aussi
oui, c'était un peu
le
ça.
Paradoxe
mais
de ce clip.
Ce qui était très étonnant, je me souviens d'une discussion un jour avec la maman de Claude François, Lucia, que j'ai connue. Et on lui avait prédit au printemps 1900.
Italienne, égyptienne.
Alors elle était italienne, oui. Calabraise, elle était voilà. Et alors c'était, on lui avait prédit le succès de son fils. Elle m'avait raconté l'histoire au printemps 47. Elle est allée voir une tireuse de cartes, une espèce de voyante comme ça, d'origine italienne comme elle. Donc elle se parlait en italien. Et elle était accompagnée de sa fille aînée, la grande sœur de Claude François, qui avait 3 ans de plus que lui. Et alors, elle lui prédit que, on savait pas, il y avait pas d'échographie à l'époque en 1947. On savait pas si on allait mettre au monde un garçon ou une fille. Elle lui avait prédit un garçon. Ce garçon aurait son nom un jour en lettres de feu, en lettres de lumière. Alors, on savait pas ce que ça voulait dire vraiment. Elle dit, ah bon, il sera président de la République? Répond Lucia à ce moment-là. Elle dit, ah non, non, plus que ça. Mais il faudra qu'il se méfie parce que je le vois toujours sur une barque, sur le Nil, entouré, enfin, en tout cas, sur une barque flottant, entouré d'eau. Donc, faut qu'il fasse attention. Elle lui avait simplement dit ça. Et bien sûr, Lucia François s'en est souvenue quand son fils est mort accidentellement. Elle s'est souvenue de cette voyante italienne qui lui avait annoncé quelque part la carrière de son fils, en tout cas le nom en lettres de feu. Mmh, ouais. Et puis ce fameux accident dans sa baignoire, un 11 mars 1978, puisque Claude François s'est électrocuté, et à la suite d'une électrocution, il partira d'une embolie pulmonaire, comme on le sait.
Nous sommes avec Jean-Claude Cacciadourian. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans cette discussion et dans cet hommage à Claude François. Je sais qu'il vous touche parce que vous êtes fan vous-même et président du fan club officiel de Claude François, qui est basé avec vous à Malmoisson, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, j'ai appris grâce à Charlotte qui vous a contacté qu'il ne restait plus qu'un fan club aujourd'hui de Claude François.
Eh bien oui, c'est vrai que c'est vrai qu'après la disparition de Claude en 78, il y avait pas mal de fan clubs sur la France. Et nous sommes le plus ancien et le dernier qui existe, très actif avec un fanzine, avec des soirées hommages, avec la messe que nous avons organisée l'année passée pour les 40 ans à Notre-Dame d'Auteuil, avec des voyages organisés vers Dannemois en bus, vers le Boulay, bien entendu.
Ce que vous ferez d'ailleurs ce week-end.
Voilà, tout à fait. Samedi 2 février, donc nous organisons un déplacement à Dannemois au départ de la gare de Lyon, donc pour Dannemois, voilà.
Et pour rendre hommage à Claude François, donc,
oui, bien sûr, pour rendre hommage à Claude.
Il aurait eu 80 ans cette semaine.
Tout à fait. Voilà, habituellement, on organise quelque chose sur Paris au mois de mars, mais là, donc cette année, c'est un peu particulier puisque Claude aurait eu 40 ans là vendredi. Donc,
80,
on a décidé de
80,
ouais, 40, voilà. 80 ans, oui, ouais. 80 ans. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer, comme disait Fabien.
C'est ça.
On a tellement mal à imaginer. Il est tellement parti jeune et en toute beauté au sommet de sa gloire que. On a beaucoup de mal à imaginer que Claude aurait 80 ans là, dans quelques jours, dans 2 jours.
Qu'est-ce qui continue, Jean-Claude, à vous toucher dans l'œuvre de cet artiste ?
C'est l'homme, c'est sa carrière, c'est la ténacité depuis qu'il est arrivé d'Égypte, comme Fabien le disait, là, en 56. Cette volonté de toujours arriver, d'être toujours le premier, voilà, au-delà de l'artiste, au-delà du chanteur, moi, c'est cette ténacité que j'ai toujours admiré. Et bon, c'était pas qu'un chanteur, c'était un homme d'affaires, c'est un visionnaire, et c'est ce qui me plaît sur Claude, voilà. C'était tout un monde qu'il a créé, et ce qui nous plaît beaucoup aux fans, c'est ce côté-là, en fait.
Vous savez que vous nous parlez, Jean-Claude, et alors, il y a des ruptures de lumière dans le studio qui sont étonnantes. C'est comme si le fantôme de Claude François était avec nous. Voilà. Je sais pas si vous écoutez.
On est plusieurs à croire à certains signes là, qui se passent souvent quand on parle de Claude ou quand on évoque ce sujet. Ah oui, on est souvent entre fans, entre potes. On a toujours des signes qui nous arrivent un peu à droite à gauche. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais enfin on est plusieurs à croire à certains signes.
600 adhérents pour votre fan club à travers la France, l'Angleterre, le Canada, la Tunisie, la Belgique, la Suisse. Vous allez nous dire encore quelques minutes après la pause, Jean-Claude, ce qui réunit justement chacun d'entre vous, et qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous vous retrouvez par exemple au moulin de Dannemois sur la tombe de votre idole? C'est tout un univers, évidemment. Fabien Lecoeuvre est avec vous, nous, et n'hésitez pas à réagir également au Standard d'Europe 1. À tout de suite.
39-21.
Lumière.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Je veux me montrer, et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies, et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai demain la joie d'un seul. Je suis là comme avant, mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies, et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi?
C'était lui, vraiment le mal aimé Fabien Lecoeuvre. Très autobiographique.
C'est lui qui avait demandé d'adapter cette chanson, ce succès outre-Manche, parce qu'il se sentait très mal aimé. On est à la fin de l'année 73, au printemps 74, et il sort d'un contrôle fiscal, enfin c'est très compliqué. Il est très ennuyé sentimentalement aussi. Enfin, sa vie est complexe. Et puis, il se sent très rejeté par une société professionnelle qui ne le reconnaît pas forcément dans son talent et dans son savoir et sa manière d'être. Donc, il se sent vraiment mal aimé. Et il raconte à Eddy Marnay, un immense auteur, qui était très habitué à travailler avec Clo-Clo ou avec Jean-Pierre Bourter, le compositeur, évidemment, attitré. Et il raconte finalement ses malheurs, sa vie, l'incompréhension que parfois les
vous
gens du métier...
Vous ne me connaissez pas, quoi.
Vous ne me connaissez
pas vraiment. Ouais.
Et ce sera un très beau succès de l'été 74.
Mais il avait des problèmes avec le fisc ?
Oui, il a eu en 73, comme Johnny Hallyday, comme Aznavour, comme Paul Naref. Clo-Clo a été contrôlé.
Oui. Il a laissé beaucoup
fois.
De dettes, d'ailleurs. Hein.
Oui. Et puis c'était très compliqué à ce moment-là. Ils avaient des rapports très compliqués avec le Trésor public, tous ces artistes de cette génération. Et lui-même...
Qui flambait un peu, il faut dire. Ou pas forcément. C'était pas un rigoureux dans les affaires.
Non, mais enfin, si vous voulez, ils affichaient, c'était des nababs, hein, en fait. Oui. Ils étaient dans un train de vie, ils roulaient dans un train de vie qui n'était pas forcément le leur. Mais il y avait cette apparence de donner. C'est-à-dire qu'ils avaient une vie de star américaine avec un succès français, franco-français.
D'accord, ouais. Mais ils avaient des comptables, ces gens-là, qui oui, s'occupaient mais souvent, de régler les impôts, quand
oui,
même.
Oui, mais enfin, vous savez, le comptable n'avait pas autorité sur l'artiste, souvent. Mmh. Ce qu'il faut expliquer. C'est-à-dire qu'un artiste. Clo-Clo, entre autres, dépensait plus d'argent qu'il n'en rentrait lui-même. Donc c'est toujours un peu compliqué parce que, voilà, alors, alors ils n'écoutaient pas leur cabinet comptable, hein, les chanteurs. Vous savez, c'est eux qui étaient les maîtres absolus. Seulement, quand une année, on gagne beaucoup d'argent, l'année suivante, un peu moins.
Et la vie d'artiste.
Ben, l'année d'après, quand il faut payer les impôts, c'est plus compliqué.
Voilà, la vie d'artiste qui vous touche. Oui. Jean-Claude Cachadorian, président du fan club officiel de Claude François, vous qui allez rendre hommage au chanteur, vous allez sur sa tombe samedi à Dannemois.
Oui, c'est ça.
Les forces et les fragilités du personnage vous touchent toujours aujourd'hui, tel que vient de les énoncer. C'est Fabien Lecoeuvre.
Tout à fait, Fabien a très bien résumé ce que c'était la vie de Claude, et c'est vrai que ce mal-aimé, ça résumait en fait un peu son mal-être, et de se sentir mal-aimé en fait par la profession aussi, par certains castes de l'époque, donc, et c'est vrai que Di Marnay avait bien résumé ça dans cette chanson.
Vous aviez 19 ans quand Claude est mort, Jean-Claude, ça fait 40 ans,
oui.
Et vous n'avez donc cessé de l'écouter, de le célébrer, comme il habite votre quotidien vraiment ?
Pratiquement, puisque bon, au-delà de tout ça, je suis président du fan club. Donc c'est vrai que le courrier arrive pratiquement tous les jours. Mm-hmm. Les adhésions, le fanzine à créer, donc à mettre en page, etc., etc.
Quel est votre métier par ailleurs ?
Je suis paysagiste.
Paysagiste, oui, c'est ça. Donc c'est vraiment une passion de vie que votre entourage, que votre famille comprend. Que vos amis comprennent.
Oui, tout à fait. Oui, c'est bon. C'est vrai que la compréhension est plus palpable maintenant, parce que plus de 40 ans après qu'au tout début. Au tout début, il y avait 25 ans, 30 ans en arrière, les gens me regardaient avec un peu bizarreté, en fait. Voilà, ils ne savaient pas le pourquoi du comment, pourquoi donner toujours autant d'importance à quelqu'un qui a chanté, mais qui était décédé, etc. Et c'est vrai que malheureusement, le regard des gens était un peu inquiet, un peu interrogatif.
C'est ça. Ouais. Aujourd'hui le regard a changé et vous revendiquez cet attachement, toujours.
Oui, tout à fait. Oui, maintenant, je n'ai plus, entre guillemets, honte de dire que je suis fan de Claude et que je suis président du fan club. Voilà, c'est le regard des gens a changé aussi il y a quelques temps en arrière, parce que c'est vrai que Claude, quelque part, certains magazines, certains journaux l'ont mis en plus en valeur qu'il y avait quelques années en arrière.
Oui.
C'est tant mieux. Et Fabien aussi a contribué à ça.
Oui. Eh ben, merci beaucoup de saluer le travail de Fabien Lecoeuvre et on rappelle votre fan club officiel de Claude François, Jean-Claude Cachadorian, merci beaucoup. Oui.
Merci encore quelques
minutes pour parler de Claude François, de l'artiste, du mythe aussi que reste-t-il aujourd'hui, lui qui aurait eu 80 ans ce vendredi. À tout de suite sur Europe 1, Julie.
Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude.
Un titre culte, hein, repris ensuite par Paul Anka et Frank Sinatra sous le titre My Way. C'était comme d'habitude en 67. Et un an avant, 66, apparaissaient les Claudettes.
Hein? Absolument, décembre 66, voilà. Pour son Olympia en vedette, son deuxième Olympia en vedette. Et c'était encore Claude François et ses danseuses.
Oui.
Et elles sont devenues Claudettes en mars 67, évidemment, sous une appellation diminutive de Clo-Clo, bien sûr.
C'est l'héritage musical de Claude François qui est aussi exceptionnel. Ses chansons sont bouleversantes, elles nous touchent encore aujourd'hui.
Si on doit se poser la question...
Bouleversante et très gaie, quoi. Il y a les deux.
Ouais, vous posiez la question, justement, Wendy, sur l'œuvre de Claude François. Que reste-t-il, finalement ? C'est une œuvre musicale, avant tout. Mm. C'est un peu plus de 200 titres qui ont été enregistrés par lui en 15 ans et demi, 16 ans de carrière, ce qui n'est quand même pas rien. Et surtout, il a chanté sa vie, Claude François, quand on écoute bien. C'est sa vie qu'il a chanté, grâce à des compositeurs fantastiques, que ce soit Jacques Revaux, pour, entre autres, comme d'habitude, et Clo-Clo, puisqu'il est aussi co-compositeur de la chanson. Mais des gens, j'en parlais tout à l'heure, Jean-Pierre Bourter, qui était un merveilleux compositeur et son ami absolument intime. Et puis d'autres grands compositeurs, des auteurs, que ce soit Étienne Rodagil, que ce soit Evelyne Bugy, que ce soit... Enfin, c'est Pierre Delanoë et tant d'autres. C'est-à-dire que il a été habillé sur mesure, et ça, il faut le rappeler. C'est l'œuvre musicale qui fait qu'un jour, on traverse le temps aussi.
Complètement. Et aussi, les reprises, M. Pokora y a contribué pour une nouvelle génération.
Oui, souvent. Ouais.
Écoutez. Alors voilà, cette reprise de cette année-là, M. Pokora, mais qui a touché une autre génération et qui a permis encore...
C'est ce qui permet aussi à l'artiste de traverser le temps. Bien sûr, vous traversez le temps parce que les jeunes générations reprennent du Claude François, évidemment.
Charlotte Arrigoni est en transe, je tiens à le préciser, en régie. C'est que pour vous, hein, mademoiselle.
Allez-y, alors, quel rapport avec Joe Dassin ? Parce que vous nous disiez pendant la pause que l'été indien, au départ, avait été prévu pour Claude François.
Oui, parce que...
Ils sont absolument contemporains, pardon.
Oui, c'est une adaptation d'un titre qui s'appelle Africa, qui était écrit par Toto Cutugno, en fait. Et quand il est venu à Paris, Toto, il est venu voir d'abord Claude François, qui sortait d'un énorme tube qui s'appelait à ce moment-là Le téléphone pleure. Et lui, il voulait faire adapter sa chanson L'été indien, enfin, sa chanson Africa, par Claude François, puisque c'était le chanteur numéro un des ventes de disques en France, à la fin de l'année 74. Et il vient voir Claude François. Seulement, il vient à 11h du matin et Claude François n'arrive qu'à 16h au bureau. Donc il a attendu, on va dire, 2h. Et puis finalement, Toto Cutugno est allé voir chez CBS à l'époque le directeur Jacques Plaid, directeur artistique de Joe Dassin. Et il a donné Africa à, finalement, Joe Dassin, qui est devenu L'été indien, dans la traduction de Claude Lemel et de Pierre Delanoë.
On ira.
Oh, c'est magnifique ça.
Où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Cette chanson est bouleversante, on fera une émission en hommage à Joe Dassin.
Mais je vous fais grâce de l'énervement de Claude François quand il a entendu le tube de Joe Dassin qui a pulvérisé tout durant l'été 75. Clo-Clo chantait le chanteur malheureux à ce moment-là, qui n'a pas eu les mêmes ventes que l'été indien. Ça a bien énervé Claude François, il s'en est pris à son collaborateur, il dit « Pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?» Enfin bref,
ils ont le même âge, à un an près, Joe Dassin et Claude François, ils n'ont pas le même public, ça c'est certain.
Rien à voir.
Pas le même parcours, plus de haut et de bas chez Joe Dassin.
Claude a les enfants et les adolescents, et Joe Dassin, on va dire, il avait davantage les mamans de ses adolescents. Donc c'était pas du tout le même public, ça n'empêchait
complice
pas le succès.
Aux rivaux.
Non, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de dualité. Non, il y a des dualités dans les équipes de production. L'équipe Dassin, travaillant avec Dave, Annie Cordy, c'est une autre équipe artistique. Clo-Clo avait sa propre équipe, comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan avait une autre équipe. Donc c'était des guerres intestines, des dualités intestines de métier, on va dire, en tout cas professionnel. Mais rien, les hommes, quand ils se rencontraient, ils étaient contents de se saluer, de s'embrasser, il n'y avait aucun problème. Non.
Eh bien, merci Fabien Lecoeuvre. Ouais, ça reviendra, ça on vous promet. En tout cas, l'œuvre est éternelle de Claude François, 40 ans après sa disparition pour ses 80 ans. Merci Fabien Lecoeuvre.
C'est toujours un plaisir, en tout cas, de venir vous voir.
Ça glisse entre les mains, ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire.
À demain, my dear.
À
Julie,
demain,
Claudette.
Wendy Bouchard. Dans un instant, Anne Romanoff.